Le retour à la Terre, partie 4. Fleury s'installa donc au pavillon, où il eut la tâche de soigner les chiens, d'entretenir les armes et les engins de pêche. Rodolphe, ayant payé le cheptel et l'outillage, vint à la ferme et prit le commandement. Il avait trois grands projets. Premièrement, faire rapporter à ses capitaux un intérêt exagéré. Deuxièmement, amasser patiemment, sournoisement, les matériaux d'une grande œuvre vécue qui le mènerait à l'Académie. Troisièmement, faire le bonheur d'Hélène en l'obligeant à vivre dans un milieu sain, sur la terre même de ses aïeux. Fleury devait apporter à son gendre l'appui de son expérience déjà longue. Le bonhomme n'avait pas un cœur d'airain. S'il avait renoncé sans une larme à l'outil qui fait la main calleuse, il aimait à revoir son bétail. Il venait à l'étable, donnait des renseignements sur le caractère des bêtes, s'intéressait à leur santé. Il attelait le cheval et menait ce pauvre animal à la promenade. Afin d'entretenir le moral des domestiques, il trinquait avec eux très volontiers. Mais gare à la malaisée! Celle-ci n'avait rien voulu changer à sa vie. Elle couchait au pavillon, car il est écrit que la femme doit suivre son mari. Mais, levée avant l'aube, elle courait à la ferme et donnait le branle. Rodolphe avait engagé une servante. Elle l'envoyait au champ avec les domestiques. Paysanne, obscure, elle donnait quand même ses ordres à tous, et notamment à Hélène. Avant le mariage, elle avait regardé Rodolphe avec l'attention un peu inquiète que l'on accorde aux lunatiques. Maintenant, elle manifestait à son endroit une sympathie teintée de commisération. Avec elle à la maison, il était beaucoup plus facile que Rodolphe ne l'aurait cru de diriger une ferme. L'hiver permettait les distractions. Rodolphe chassa, pêcha, mais ne remit pas les pieds aux nations. Il prit part à des battues pour détruire les animaux nuisibles. Fleury, rabatteur, suivait le mouvement, puis il prit un permis pour son propre compte et passa le reste de la saison à dérouiller le fusil de Rodolphe et à exercer ses chiens. Ses parties de chasse, assez peu fructueuses, se terminaient chez l'un ou l'autre Laverdin. Hélène frisait ses beaux cheveux et chantait des romances sur l'air de la Pimpolaise ou du Trompette en bois. Elle ignorait tout des grands projets de Rodolphe, comme elle ignorait d'ailleurs sa carrière de feuilletoniste et son pseudonyme. L'examen des carnets numéros 2 et 3 ne pouvait la renseigner. Des effusions surveillées ne lui livraient que de vagues renseignements sur la première jeunesse de son mari, son existence de poète rentier dépourvu de relations inavouables et payant exactement son terme. L'âme de Rodolphe gardait son mystère. Hélène, au reste, ne se souciait pas autrement d'en chercher la clé. Elle eût seulement souhaité que Rodolphe, de temps en temps, composât une chanson d'amour, puisqu'il savait le faire, lui. À Noël, il fallut bien aller à Paris. Louis le gentleman y allait aussi, en auto. Il emmena le couple. Rodolphe voulait résilier le bail de son appartement. Hélène s'y opposa avec une terrible énergie. Ce pied-à-terre était plus confortable qu'une chambre d'hôtel au lit douteux, et, tout compte fait, puisqu'on reviendrait souvent à Paris, moins onéreux. Hélène acheta un banjo. Dès le premier printemps, Rodolphe conduisit sans difficulté une charrue qui labourait, pour ainsi dire, de race. Toute la peine en revenait à l'attelage. Fleury fut fier d'enseigner à son gendre, en 10 minutes, le geste auguste du semeur. La malaisée dit « Achetez donc plutôt un semoir mécanique. Pourquoi » « Pourquoi ? » demanda Rodolphe. « N'en fîtes-vous pas acheter un par votre mari ?» La malaisée parlait bien, mais peu. Elle leva les épaules. Rodolphe acheta le semoir. Il en connaissait le fonctionnement tout aussi bien que les autres. L'appareil, d'ailleurs, avait beaucoup moins de ratés qu'un stylo. La taille de la vigne est une science et un art. Personne n'est obligé d'être un artiste. Rodolphe acquit la science en deux leçons. Le printemps verdissait les prés. Sûrs de leur rôle, les oiseaux chantaient sur le bord de leur nid. C'étaient les poules qui faisaient le plus de bruit. Rodolphe comprenait enfin beaucoup de choses. Par exemple, pourquoi les œufs sont moralement tenus de baisser lorsqu'on paie de plus en plus cher des pommerainettes de plus en plus flétries. Pourquoi on ne mange pas en toute saison du chevreau à l'ail vert. Pourquoi le père Fleury n'avait pas été son concurrent lors de l'achat de la ferme. Sensible au réveil des sèves, Fleury se coiffait sur l'oreille et tendait le jarret. Il donnait à tous les voisins aide et conseils pour le soutirage des vins. La demoiselle d'honneur des nations pensait étouffée de rire à ses contes. Dans un rayon de 6 lieues, il y avait juste le nombre de foires nécessaires et suffisant. Une de plus, et le bonhomme, malgré sa bonne volonté, eût fait des jaloux. Le dimanche, il était lié par ses scrupules religieux et par un serment solennel. C'est pourquoi, après la messe, il allait chez Laverdin Poudrette. Les nouveaux débarqués y faisaient halte. Le chef de gare venait derrière le coq. Après lui, l'homme d'équipe, jaune, courtois, secret. Fleury payait ce qu'il fallait, puis Laverdin, puis les nouveaux débarqués, et parfois même l'homme d'équipe. Le chef de gare, jamais. Fleury s'était juré de faire payer le chef de gare une fois avant de mourir. Rodolphe s'étonnait que le bonhomme eût pu joindre les deux bouts et faire donner à sa fille une bonne éducation, en somme. Hélène commençait à tirer du banjo des accents qui lui mettaient à elle-même les larmes aux yeux. Elle tenait mal la comptabilité. Mais est-il besoin de comptabilité quand les affaires vont bien? 6 mois après l'arrangement qui l'avait fait propriétaire exploitant, Rodolphe Boutois, malgré son inexpérience, les voyages à Paris d'Hélène et le banjo, évaluait ses bénéfices nets à 10%. Que serait-ce plus tard? Le premier grand projet était donc en bonne voie de réalisation. Le second également, car Rodolphe commençait à savoir ce que c'est qu'un paysan. Quant au troisième, que manquait-il au bonheur d'Hélène? Voici des fruits, des fleurs et des feuillages. Voici mon cœur qui ne bat que pour toi. Et voici de l'or, honnêtement gagné.
Je veux revoir Montmartre, murmurait Hélène.
Ça, non. Du moins, pas pour le moment. Il fallait faucher, planter, sarcler. La pêche était ouverte. On attendait des veaux.
Allons voir nos terres, disait Rodolphe, en passant son bras sous le bras d'Hélène.
Nous mangerons des cerises sur l'arbre, nous verrons bondir les agneaux autour de leur mère, nous compterons les grains du plus bel épi, et nous reviendrons, les mains embaumées de fleurs sauvages. Allons voir nos terres, chère Hélène.
Elle s'en moquait des terres, des épis, des agneaux
et des cerises même.
Si j'avais su, si j'avais su, murmurait-elle.
Pendant qu'il était au travail ou à la pêche, elle lisait des feuilletons. Le dimanche, elle allait au cinéma. C'est ainsi qu'à mesure que Rodolphe se prenait d'amour pour sa nouvelle condition, il sentait Hélène se détacher de lui. Certes, il avait étudié le cas ou des cas analogues dans ses romans feuilletons, et il aurait pu sans doute y remédier. Mais pour cela, la saison d'été n'était pas favorable. Le temps faisait défaut. En juillet, Rodolphe pêcha l'écrevisse, coupa le blé, vendit du bétail. Sur le carnet numéro 4, la courbe bénéfice atteignit l'altitude 15%. Hélène, par la boîte aux lettres de la mode franco-américaine, déversait le trop-plein de son âme chez Piment du Cocktail, femme du monde. Elle, Muguette des Bois. Fleury fêta à la foire la fin de la moisson. Louis le gentleman le ramena dès 4 heures du soir, plus saoul que la Pologne.
seule à la maison, Hélène faisait gémir le banjo. On ne sait au juste ce qui se passa quand ils furent trois. La malaisée, revenant à l'improviste, leur brisa sur les reins le banjo. L'état d'Hélène empira. Piment du cocktail ne tutoyait point son mari. « La vie que vous menez est indigne de vous, » dit à Rodolphe Muguette des Bois. « Tu préférerais donc que je fusse un rentier crasseux, impropre à rien, un de ces parasites qui, dans une société bien organisée, devraient mourir de faim ?» Emporté sur la pente du souvenir, Rodolphe s'écria. « Dis, tu préférerais avoir épousé une moule en pantalon étroit ?»«
Qui vous parle de pantalon étroit ?»
riposta Hélène. « Je ne retarde pas à ce point quand même. Deuxièmement, » continua Muguette des Bois, « portez les vêtements que vous voudrez, pourvu qu'un cœur batte en votre poitrine, pourvu que votre âme, s'élevant au-dessus des soucis grossiers, soit la sœur de mon âme. »«
Oh, cette piment du cocktail, » dit Rodolphe, « que je sois juré le jour où son mari lui fera passer le goût du pain. »«
Vous étiez parisien et poète, naguère ?» murmura Hélène.
« Je suis producteur de blé, » hurla Rodolphe, « et moderne, et à la page. Dès cette année, j'aligne mes 30 quintaux, comme les étrangers. Et je fais aussi du beefsteak de première qualité, du beurre, des œufs, des pommes de terre, du vin que je champagnise, de l'eau-de-vie qui sera cognac dès que je le voudrai. Si vous ne craignez pas le vertige, voyez les bénéfices. »
L'argent pour Hélène était un moyen, non une fin. Elle voulait vivre parmi les civilisés. Piment du cocktail connaissait un poète créole et l'auteur principal d'un livret d'opérette. Leurs âmes communiaient. « Ma femme est charmante, » confia Rodolphe à la vieille de Chercheboule.
« Mais je ne sais ce qui la tourmente. »«
Ça !» répondit la vieille. La saison des battages commença. Les grands journaux d'information annonçaient un rendement dépassant toute espérance. En outre, la marée des blés argentins, depuis si longtemps menaçante, finirait bien par déferler par-dessus les douanes. Méfiant, Rodolphe ne vendit point sa récolte. Louis le gentleman, dans un château qu'il venait d'acheter, donna une fête. Une chanteuse des théâtres de Paris fit entendre des lyriques. Une dame de la société, plumeau au derrière, le manche on ne sait où, prétendit imiter Joséphine Baker. Le bal fut un bal costumé. Muguette était en joli muguet de mai. Rodolphe, oh, en serre taillable à merci. Innocent, il gagna 1000 francs au poker. Ce bien mal acquis profita à Muguette, qui garda pour 3 mois encore l'appartement de Paris. Elle alla y faire quelques embellissements, revint contente, avec 12 chemises culottes combinaison et des pyjamas feuilles mortes, puis se désola de nouveau. Entre la saison de battage et les semailles, Rodolphe eut bien voulu qu'on lui laissât un peu la paix. La chasse était déclarée, les perdreaux que les autres tuent, on ne les retue pas. Par les matins de gelée blanche, les brochets mordaient au vif comme des loups. Les perches neurasthéniques se suicidaient à la file indienne. La malaisée gagnait gros sur ses cochons. Mais Hélène buvait des liquides choisis en dressant le petit doigt. Ses pyjamas soulevaient l'hilarité du journalier massif et la haine de l'unifié qui commençait à croire que le communisme a du bon. Brouillée à mort avec piment du cocktail, Hélène écrivait, à l'adresse particulière de l'ennemi, une très longue lettre de rupture à l'encre bleue sur papier bleu. Par le même courrier, une carte pour Louis le gentleman. La malaisée donna à sa fille des bas reprisés et une claque. De quel droit, à la fin ? Hélène, d'un coup de tête, acheta une collection complète de romans populaires. Rodolphe comprit qu'elle en aimait, d'un amour désespéré, jusqu'aux auteurs, même les lâches qui signaient X. Il s'était juré de garder longtemps encore l'incognito. Mais, devant la gravité de la situation, il prit la décision qui s'imposait. la fiancée du conquistador, son premier roman, à lui, Gaétan de Kerlimonec, avait paru sous couverture illustrée et même glacée chez l'éditeur banqueroutier. Piégeur émérite, Rodolphe tendit adroitement cet appât. Hélène se jeta dessus et le dévora. Elle en demeura toute molle sur une chaise longue avec des yeux hagards. « Y a-t-il un malheur ?» demanda Rodolphe. Hélène releva ses genoux, y appuya son menton et regarda vaguement quelque part. « C'est ça que tu lisais ?» dit Rodolphe en prenant le livre. Il fit une inspiration profonde, pâlit un peu et... « C'est idiot » jugea-t-il. Hélène eut un sourire plein d'amertume. « Dites tout ce que vous voudrez, mon ami, mais pas ça !»«
C'est idiot » répéta-t-il avec force. « Idiot ! Et l'auteur le voulait ainsi.
L'auteur l'a fait exprès !» Il ajouta après un temps. « Je connais très bien l'auteur !»
Hélène s'anima.
« Je crois le connaître aussi, » dit-elle. « L'auteur ne peut être qu'une âme d'élite. »
« L'auteur, c'est moi !» dit Rodolphe. Elle ne s'évanouit pas. Elle n'eut qu'un pâle sourire. Alors, il donna des précisions, accumula preuve sur preuve et finit par s'emballer.
« Je te répète, sacré mille tonnerres, que c'est moi, moi, et pas un autre. Je n'en suis pas plus fier pour ça. Mais la vérité est la vérité. Inutile de te monter le bourrichon avec ton Kerlimonec et ton Conquistador. Ce bouquin est une ânerie, écrite à l'usage des ânes, par un crétin. J'ai été ce crétin. »
On ne sait à quel excès de langage il se fut laissé aller si Hélène ne s'était dressée tout contre lui.
« Je suis fière de toi, » disait-elle. « Tu me rends la plus heureuse des femmes. »
La soirée était trop avancée pour que l'on fît de grands projets. Mais dès le lendemain matin, Hélène rassembla ses objets de toilette.
« Je ne veux pas être un obstacle à votre gloire. Mon devoir m'interdit de vous retenir plus longtemps au fond de ces campagnes. Me voici prête à vous suivre à Paris. »
Laverdin signalait un passage de Bécasse. 4 bœufs à vendre, 10 hectares à hercer. Louis le gentleman vendait un taillis de châtaigniers touchant Rodolphe par 3 côtés. Rodolphe acheta cette enclave. Hélène eut des regards farouches.
« Misérable, murmurait-elle, gaspiller ainsi les dons du Créateur. Elle le ramènerait, malgré lui, vers le monde qu'il n'aurait jamais dû quitter.
« Dès maintenant, ordonnait-elle, écrivez, écrivez tout ce qui vous passera par la tête. Cela vous remettra toujours en train.
Depuis ma typhoïde, je n'ai plus la moindre imagination, assurait Rodolphe.
Il pouvait, sur ces terres, détruire les animaux nuisibles par tous les moyens, même au fusil. Il pouvait aussi les faire détruire par ses gens. Le père Fleury l'accompagnait pour de sales blagues aux corbeaux, qui d'ailleurs n'étaient jamais en reste.
Si j'étais propriétaire, disait le bonhomme, je ne me ferais pas tant de bile.
Hélène veut aller à Paris. Pourquoi ne la contentez-vous pas ?
Elle est malaisée, répondit Rodolphe.
Dans une commune voisine, à la lisière d'une forêt, les sangliers faisaient de leur tour. On se prépara à les recevoir. En attendant, on enfuma des renards. Un contrôleur des contributions directes, qui se croyait tout permis, fit planer une menace d'impôt sur les bénéfices agricoles. Réunis chez Laverdin-Poudrette, 150 propriétaires ou fermiers décidèrent de parler net. Rodolphe, à l'unanimité moins une voix, fut chargé d'écrire aux députés. Hélène, lisant par-dessus son épaule, lui arracha la plume des mains. Alors, il dut lâcher le reste de son secret. Lentement, posément, raisonnablement, il exposa toute l'économie de son second grand projet. Commettre la fiancée du conquistador ne procurait pas la gloire, comme elle se l'imaginait. Cela déclassait au contraire un auteur.
On pouvait se le permettre dans sa première jeunesse, comme on fait des gammes. Mais le temps était passé de ces jeux innocents. Il songeait à une grande œuvre qui le ferait d'emblée célèbre. Déjà, il en assemblait en sa tête les matériaux. Ce serait une histoire du genre simple, mais qui irait loin quand même. Scène vécue, personnage pris en pleine réalité. « Quel personnage ?» demanda Hélène. « Eh bien, par exemple, Joseph le journalier, la Verdun-Poudrette, le bûcheron Ricandoul. Mais qui peut s'intéresser à des gens pareils, à leurs histoires embêtantes ?» s'écria Hélène. Rodolphe, décidé à frapper un grand coup, « Ce ne serait pas la première fois que des histoires embêtantes mèneraient un auteur à l'Académie. » « Tout cela n'empêche pas que nous vivions à Paris ?» conclut Hélène énervée. Elle faillit glisser jusqu'à la syncope. Rodolphe n'appela pas la malaisée. Le printemps éclata dans les cerisiers. Rodolphe, engagé dans un procès contre un autre propriétaire à propos d'un droit de passage, gagna. Des vignes gelèrent, non les siennes. Ses blés étaient d'un vert si profond que le domestique unifié passa, avec sa faucille, au communisme. Rodolphe le remplaça, par raison de symétrie et à bon compte, par un Hercule d'importation, un russe marqué au knout par la Tchéka. Pour la première fois depuis la grippe espagnole, son pancréas oublia de lui sonner Pâques. Ficelé, cacheté, son piccolo de 6 mois faisait péter les bouteilles. Fleury lampait jusqu'à la lie, sans souci du verre cassé. Louis le gentleman but un bouillon. Ses affaires s'imbriquaient, la fin de l'une glissait sous le commencement de l'autre. La dernière surplombait le vide. 100 000 francs que lui eut confié Rodolphe, pour 6 mois seulement et à un taux à débattre, lui eussent permis de souder une affaire royale à la tribu des Guimbert de Paris, nationaliste et béni au fond juif sans patrie. Loyal, robuste, la main tendue, Rodolphe lui offrit, pour voir venir, 30 francs par jour et la nourriture, du 15 mai au 15 octobre. Louis le gentleman bénéficia d'un associé et d'un jugement qui fit ressortir la bêtise du dit associé, plumé en 2 mois. Le gentleman se tira ainsi d'affaire. Il n'avait point les mains nettes, mais il ne les avait point vides. Il disparut. « À la fin, disait Rodolphe à Hélène, tu me taperais sur les nerfs si j'avais encore des nerfs. Un de ces 4 matins, si tu continues à me pincer la jambe avec tes histoires de romans feuilletons et de vie distinguée, je vais te montrer ce que c'est qu'un gars, tu m'entends bien ? Un bon gars de la foire. » Il lui disait « Tu m'embêtes !» en un patois fort gras. Il redemandait de la soupe aux choux, buvait dans l'assiette profonde et encore chaude une chopine de vin rouge. Après chaque repas, il se tapait sur le ventre. « Encore un que les Parisiens n'auront pas !» Il fut membre fondateur et aussitôt président de l'association cantonale pour la défense contre les touristes. Forte d'une alliance tacite, la malaisée écartait Fleury d'un coude brutal. Sous, le bonhomme devait s'attendre à passer la nuit dans la grange sur une botte de foin. La malaisée donnait cette leçon à Rodolphe. « Si je te l'avais dressé dès les premiers temps de notre mariage, il ne serait quand même pas ce qu'il est. » Depuis si longtemps qu'elle n'avait vu Paris, Hélène ne pouvait plus manger que des biscottes. Rodolphe dit « Il est criminel de garder un appartement vide dans la capitale, alors que de nombreuses familles nombreuses doivent s'entasser dans des taudis, que des fiancés impétueux voient s'éterniser leurs fiançailles, que des travailleurs économes sont la proie des lotisseurs, que de grosses dames dans les trains de banlieue. « Où voulez-vous en venir, mon ami ?» interrompit Hélène d'une voix brisée. « À ceci, que j'écris à mon propriétaire pour céder mon droit au bail. C'est pesé. » « Qu'il soit fait selon votre volonté, » dit Hélène qui se retira dans sa chambre. Le propriétaire répondit aussitôt. « un agent de location, avait un client qui reprendrait les meubles. Fixez le prix par télégramme. En 4 jours, tout fut réglé. Douce, Hélène mangeait du lard aux choux. Les épis ondulaient mieux qu'une mer dorée. Elle demanda quand on commençait la moisson. Rodolphe alla chez le mécanicien à Chercheboule pour faire revoir et mettre au point la moissonneuse. Quand il revint, Hélène était partie. Elle n'avait pas pu s'empêcher d'expliquer pourquoi, en une longue, trop longue lettre. Paris, la vie civilisée, les plus nobles élans de l'âme. Personne n'eût songé à lui demander toutes ces idioties. Elle ne disait pas, cependant, si elle reviendrait un jour. Après une petite pluie, un coup de vent sec rendait la paille cassante comme verre. C'est toujours le plus beau grain qui tombe. Avant de battre, il faut couper. Pour enlever toute excuse aux glaneuses, il n'est rien que l'œil du maître. Fleury, seul, avait le temps d'être ému. Il coucha 7 nuits dans le foin. Le 8e jour, le plus dur de la moisson, était fait. La malaisée s'approcha de Rodolphe et lui versa de l'eau-de-vie de chez elle, mise en fût par son grand-père à elle, et dont personne n'avait goûté depuis le 11 novembre 1918. « Pourquoi ?» balbutia Rodolphe, confus. « Parce que vous n'êtes pas un navet. » Mais Rodolphe ne tarda pas à connaître tout son malheur. Hélène était à Paris, dans son appartement, dans ses meubles. Son, c'est, autrefois à lui, maintenant à elle. L'agent de location, Louis le gentleman, bail inattaquable. « Bon Dieu !» fit Rodolphe en frappant sur la table. Bouillant comme une soupe au lait, il se rua hors de la maison, enjamba sa ferme, brûla les nations, traversa Chercheboule en un rêve, omit de répondre au salut de la vieille, ne vit même pas Laverdin Poudrette, força l'entrée de la gare et, sur la plaque de cuivre du guichet, fit, avec une pièce de 2 francs, clac. Allongé pour la sieste, sur un lit de camp, l'homme d'équipe se leva aussitôt. La distribution des billets ne le regardait pas. Toujours courtois, il assura que le chef de gare viendrait en temps utile, puis se recoucha. Le train pour Paris ne passait qu'à 14h37. L'heure est l'heure. L'horloge, indifférente aux passions humaines, marquerait d'abord 14h, quand il serait 14h, pas avant. Rodolphe serra les poings et alla pourtant s'asseoir. Il faisait si chaud, il avait tellement soif, qu'il lui eût été impossible de cracher dans les crachoirs disposés à cet effet. Par un carreau cassé de la porte, il vint une odeur de framboise. Rodolphe se leva, remonta le courant d'air frais et parfumé. Sur le quai, à l'ombre d'un marronnier, le chariot portant les paniers de beurre destinés à la capitale. Sur le fer du chariot, un coq. Si c'était le même coq, il avait grandi. En tous les cas, il volait les Parisiens. « Frère !» dit Rodolphe en tendant cordialement les 2 mains. Le coq sauta à terre. Gavé, la conscience satisfaite, il s'essuya le bec à une touffe d'herbe et s'éloigna dignement. Rodolphe suivit le coq. « Ah !» fit le chef de gare quand Rodolphe entra au Terminus Hôtel. Il n'était que 14h05. Rodolphe offrit des rafraîchissements et ne put refuser de commencer une belote. À 14h30, le chef de gare plaça son jeu en éventail, la figure en bas. Il fut le seul dans la commune que le passage du train dérangea. « Et voyageurs pour la direction de Paris !» dit pourtant derrière sa main Laverdin qui bâillait. « Quand on s'appelle Terminus Hôtel, grogna Rodolphe, on devrait au moins avoir de la glace. » À 14h45, le chef de gare releva ses cartes. Il gagna une manche. « Un chef de gare ne peut pas perdre, » disait-il en riant. Mais Rodolphe enleva la seconde manche et la belle. 2 voyageurs libérés étaient entrés. Puis était venu l'homme d'équipe. Le chef de gare rassembla, comme une heureuse famille, tous les verres et il paya la tournée. Soudain pâle, l'homme d'équipe se leva et, furtivement, il se signa. Pour revenir, Rodolphe attendit que le jour eût jeté son plus grand feu. Il devait des excuses à la vieille de Chercheboule. « Si vous avez besoin de quelqu'un, dit-elle, par les bureaux de placement, vous savez, il y a des risques. » Rodolphe s'intéressa férocement à sa santé, tâcha de lui faire craindre une attaque d'apoplexie. Elle lui fit quand même un bout de conduite. « Ça, disait-elle, fait le malheur, mais aussi le bonheur du monde. » Vers les nations, des perdrix téméraires rappelaient. Les ombres s'allongeaient. Une brise soigneuse recueillait avant la nuit tous les parfums. De grands arbres portaient un écriteau sur le ventre. Chasse gardée, pêche interdite, passage privé. Rodolphe arrivait sur ses terres. Il bourra sa pipe. Hélène reviendrait ou elle ne reviendrait pas. Cela regardait Louis le gentleman, Louis l'imbécile. 20 rangs de vignes étaient bleus de sulfate. Le 21e était planté en chasselas et fondant roux. Le premier cochon de maraudeur, qui voudrait en tâter, pourrait bien recevoir de la cendrée dans les fesses. Les betteraves têtaient l'humus. Transformées en porc, les pommes de terre de 4 sillons seulement suffiraient à payer un appareil de TSF. La porcherie est une certitude. Rien de ce qui en sort ne se perd, grâce aux charognards. Dans la prairie, les bœufs mugirent quand ils virent Rodolphe. Qu'est-ce qu'il demandait, celui-ci? Mais les vaches, connaissant l'heure au frottement de leurs pies, s'assemblèrent autour du maître. Alors les bœufs s'approchèrent aussi. Ne mangeant plus, ne ruminant pas encore, les bêtes, désœuvrées mais sans nerfs, pardonnaient au maître ses niches, ses claques, comme on pardonne à un enfant gâté. Rodolphe aimait ces bêtes pour leur douceur et leur poids. Le premier super bénéfice serait consacré à l'achat d'une 12 chevaux qui n'aurait pas les pattes nouées. Le chien de chasse accourait. Il avait vu partir Rodolphe avec angoisse. Il se dressa, regarda son maître dans les yeux. Le maître n'était pas fou. Rassuré, il prit les devants, le nez à terre, le fouet battant. Quelque chose lui disait qu'on allait bientôt leur faire lever le derrière, au lièvre. Rodolphe raconta à Fleury comment le chef de gare avait payé une bouteille de mousseux et 4 verres d'anisette. Fleury aimait son gendre, au fond. « Le pauvre rêve tout haut, pensa-t-il, pourvu qu'il n'aille pas faire un mauvais coup. » Tout dévoué, il annonça que, dorénavant, du moins jusqu'à la fin des semailles, il tiendrait la place d'un valet, s'il le fallait. La malaisée avait pleuré. Quand elle entendit la voix de Rodolphe, elle se précipita vers ses fourneaux. Elle pensait à Hélène, quand même. Son repas terminé, Rodolphe lui dit « Je ne suis pas homme à chercher des difficultés. » Il fuma une bonne pipe, assis devant sa porte, les mains sur le ventre. Si Hélène ne voulait pas revenir, il n'irait pas la chercher à Montmartre. Des odeurs chaudes et de longs souffles venaient des étables. Le crépuscule donnait l'idée de formes plantureuses. Rodolphe n'eût pas été embarrassé, pourtant, de trouver des rimes. Il songeait d'ailleurs à entrer à l'académie. Ce serait pour plus tard, l'année des vaches maigres. Il y avait bien à l'académie le parti des ducs. Pourquoi n'y aurait-il pas le parti des agriculteurs? Un duc, je vautis pas ben un duc, nom de Dieu! Pensait Boutois.